le rendez-vous d'Amnesty International.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Radio FM+, et vous écoutez Amnesty International. Aujourd'hui, on va revenir un petit peu sur le conflit au Darfour. Il y a 20 ans, il commençait en 2023. Bilan humain, 300 000 morts et près de 2 millions de personnes déplacées. Après des années d'instabilité et d'insécurité, le pays fait face à une nouvelle flambée de violence depuis le 15 avril 2023. Les auteurs des crimes d'hier continuent de sévir aujourd'hui, alors que le pays est déchiré par la guerre depuis des décennies. De violents combats ont éclaté le samedi 15 avril 2023 à Khartoum, la capitale du Soudan, et dans plusieurs villes du pays. Une nouvelle escalade de la violence qui oppose les deux hommes forts du pays, le chef d'État de facto Abdel Fattah al-Burhan, à la tête de l'armée régulière, les forces armées soudanaises, et son numéro 2, le général Emeti, chef d'une importante milice paramilitaire, les forces de soutien rapide. En 2021, les deux hommes s'étaient alliés pour renverser le régime en place depuis 2019 qui avait mis fin à 30 ans de dictature d'Omar el-Béchir, mais leur alliance s'est avérée fragile. En pleine négociation autour de la mise en place du nouveau gouvernement de transition, les tensions ont explosé en raison de désaccords sur les réformes, notamment sur la réforme des forces de sécurité. Depuis l'embrasement du conflit il y a un an, au moins 14 700 personnes ont été tuées et plus de 10,7 millions de personnes ont été déplacées de force en l'espace d'un an. Des millions de personnes sont piégées chez elles. Les travailleurs humanitaires ne sont pas en mesure d'acheminer l'aide nécessaire. Certaines victimes font état d'attaques apparemment indiscriminées et d'autres sont prises entre deux feux, souvent parce que des combattants ont pris position au milieu de civils en violation du droit international. Les parties au conflit utilisent des armes lourdes, notamment de l'artillerie, des chars et des recours à des bombardements aériens dans des zones densément peuplées de Khartoum. Des rapports font également état de violences sexuelles commises par des soldats des forces spéciales rapides. Les souffrances endurées depuis 20 ans par la population du Darfour sont exacerbées. Des informations crédibles laissent penser que les forces d'appui rapide et les milices alliées ont tué ou blessé de nombreux habitants et habitantes au Darfour occidental. Amnesty International est donc préoccupé par les informations faisant état d'homicides ciblés en fonction de critères ethniques, de violences sexuelles, de multiples incendies volontaires visant des habitations ou du déplacement massif de populations non arabes du Darfour occidental, en particulier dans la ville d'El Geneina et ses environs, dont les forces d'appui rapide et les milices arabes alliées seraient responsables. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on sait des deux forces au pouvoir qui s'affrontent? 25 ans après sa prise de pouvoir, à la fin d'un règne marqué par la corruption, les crimes de masse et une faillite économique, le président Omar el-Béchir est déposé par un coup d'État à la suite d'une révolte courageuse et durement réprimé à la population civile. À la tête de cette répression, le général Mohamed Hamdan Daglo, mieux connu sous le nom du général Emeti. Le régime finit par tomber après le putsch militaire orchestré par le chef de l'armée Abdel Fattah al-Burhan, un collège composé de militaires, dont le général Emeti, et de civils, dirige le pays jusqu'en octobre 2021, où l'armée prend le contrôle complet du pays et arrête les principales figures de la société civile, à commencer par le premier ministre du gouvernement de transition, Abdallah Hamdok. À ce moment, le général Abdel Fattah al-Burhan prend la tête du Conseil de souveraineté de la transition qui gouverne le pays aux côtés du général Emeti. Mais très vite, les dissensions entre les deux hommes forts du régime émergent et en avril 2023, le conflit inévitable finit par éclater. Les forces armées soudanaises dirigées par le général al-Burhan et les forces de soutien rapide, milice paramilitaire indépendante qui est dirigée, elle, par le général Emeti, sont les deux principales forces du Soudan. Elles ont toutes les deux commis de graves violations des droits humains au Soudan et en particulier au Darfour. Les forces de soutien rapide sont notamment composées d'anciens combattants de milices Janjaweeds qui, dans les années 2000, ont aidé les forces d'armée soudanaises à écraser la rébellion dans la région du Darfour. Ce groupe paramilitaire très puissant s'est enrichi en acquérant des institutions financières et des réserves d'or soudanaises. On estime qu'il compte aujourd'hui entre 70 000 et 150 000 combattants. Son chef, le général Hemeti, entretient d'importantes relations avec des gouvernements étrangers, russes notamment. Il a conduit notamment les forces spéciales rapides à s'associer au groupe mercenaire Wagner dans l'exploitation de l'or au Soudan, a déployé aussi des combattants au Yémen pour servir les intérêts de l'Arabie Saoudite et a également envoyé des combattants en Libye pour servir les intérêts des Émirats Arabes Unis. Les forces armées soudanaises, quant à elles, sont également coupables d'avoir commis de graves violations des droits humains, notamment en utilisant des armes chimiques contre les civils au Darfour en 2016. Après l'éviction d'Omar el-Béchir en 2019 et le coup d'État d'octobre 2021, les forces de sécurité soudanaises, y compris les forces armées et les forces spéciales rapides, ont continué à commettre des crimes au regard du droit international et des violations des droits de l'homme, notamment en recourant à une force excessive contre les manifestants et manifestantes, tuant au moins une centaine d'entre eux et elles, et en blessant des milliers d'autres depuis le coup d'État. Depuis son indépendance en 1956, le Soudan est donc secoué par de nombreux conflits, principalement des conflits internes. En fait, pendant 30 ans, de 1989 à 2019, le gouvernement de l'ancien président Omar el-Béchir a aggravé la situation du pays. Il a violemment réprimé les droits humains en s'appuyant sur des milices armées. Certaines se sont muées en véritables partis politiques militarisés et se battent pour des communautés ethniques marginalisées dans les états du Darfour, du Kordofan, du Sud et du Nil bleu. C'est dans ce contexte qu'un conflit particulièrement violent éclate au Darfour, une province à l'ouest du Soudan, en 2003. Le 24 avril, le mouvement de libération du Soudan et le mouvement pour la justice et l'égalité déclarent la guerre au gouvernement. La réponse des forces armées gouvernementales épaulées par les ministres Janjaweed est immédiate et extrêmement brutale. 300 000 morts causés par le conflit au Darfour entre 2003 et 2020. 2 millions de personnes ont été déplacées en raison du conflit au Darfour en 17 ans. 15 millions de personnes, soit un tiers de la population soudanaise, sont confrontées à une insécurité alimentaire aiguë à cause de ces crises sécuritaires. Année après année, les accords de paix et de cessez-le-feu se suivent sans vraiment de succès. Mais le 11 avril 2019, après 16 semaines de manifestations contre son régime, Omar el-Béchir est destitué par l'armée. La pression populaire met fin donc à 30 ans de dictature. Quelques mois plus tard, le 31 août 2020 à Djouba, le nouveau gouvernement soudanais signe un accord de paix qualifié d'historique avec les représentants du Front révolutionnaire soudanais. C'est une coalition de 9 formations politiques et groupes armés issus de différentes régions ravagées par les conflits. Après 17 ans de conflit donc, et plus de 10 mois de négociations, c'est une lueur d'espoir pour des millions de Soudanais et de Soudanaises qui vivent au Darfour, au Kordofan du Sud et dans la région du Nil bleu. En octobre 2021, nouveau coup d'état militaire. L'armée régulière soudanaise et les forces de soutien rapide renversent le gouvernement de transition. Les casques bleus sont partis en 2020. La situation humanitaire est toujours dramatique. Un accord de compromis prévoyant un partage du pouvoir entre dirigeants civils et militaires aboutit à la formation d'un gouvernement de transition. Mais les violences se poursuivent au Darfour, malgré l'accord de paix. Exécutions illégales, passages à tabac, violences sexuelles, pillages, incendies de villages, etc. 20 ans après, donc, où est-ce qu'on en est ? Amnesty International a rassemblé à maintes reprises des preuves de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité et d'autres violations graves du droit international humanitaire commis par les forces gouvernementales soudanaises, notamment l'homicide illégal de civils, la destruction illégale de biens civils, le viol de femmes et de filles, le déplacement forcé de civils, etc. En 2016, nous avions également documenté l'utilisation d'armes chimiques par les forces gouvernementales contre les civils dans la région du Jebel Mara au Darfour. 20 ans après le début du conflit au Darfour, les autorités soudanaises ne parviennent toujours pas à protéger les civils, ni d'ailleurs à enquêter sur les crimes commis pendant le conflit et à poursuivre les auteurs présumés. Les civils du Darfour sont pris dans un cycle sans fin d'attaques armées menées sans discernement. Ces dernières semaines, des civils ont encore une fois été tués par des armes lourdes dans des zones densément peuplées. Cette spirale de violence présente d'inquiétantes similitudes avec les crimes de guerre et crimes contre l'humanité perpétrés au Darfour depuis 2023. Même les personnes qui cherchent la sécurité ne sont pas épargnées. C'est une crise humanitaire qui devient insupportable. Le pays, d'ailleurs, en conséquence, est au bord de la famine. Le pays est en passe de subir la plus grande crise alimentaire au monde. Quelque 18 millions de personnes sont confrontées à une insécurité alimentaire aiguë. Selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires, l'OCHA, la malnutrition est en plein essor au Soudan. On a environ 220 000 enfants qui souffrent de malnutrition sévère et on a également plus de 7 000 nouvelles mères qui pourraient mourir dans les mois à venir si elles ne reçoivent pas une aide d'urgence. Sans aide humanitaire urgente et un accès aux produits de base, près de 5 millions de Soudanais et de Soudanaises déjà en situation d'urgence alimentaire pourraient glisser dans une insécurité alimentaire catastrophique dans certaines parties du pays, Darfour Ouest et Centre Darfour, dans les prochains mois. C'est l'alerte donnée mi-mars par le chef des opérations humanitaires de l'ONU, Martin Griffiths. Depuis le 1er janvier 2024, les partenaires humanitaires ont apporté une aide vitale à 2,3 millions de personnes quand même, mais ça reste une goutte d'eau dans toute la région. De nombreuses personnes ont été privées d'accès aux services de base dans les états de Khartoum, du Darfour et du Kordofan. Les prix des denrées alimentaires, lorsqu'ils sont disponibles, continuent, eux, de grimper en flèche. En plus de ça, les populations sont également déplacées. Ça fait des millions de personnes, puisque le Soudan aujourd'hui connaît la plus grande crise de déplacement au monde. En un an, l'ONU estime que le nombre de personnes déplacées à l'intérieur et à l'extérieur du pays s'élève à 10,7 millions de personnes, dont 9 millions de personnes à l'intérieur du pays. 400 000 personnes ont fui vers l'Égypte. 523 431 personnes ont fui vers le Tchad, 509 526 personnes ont fui vers le Soudan. C'est des chiffres de l'OCHA. C'est pourquoi il est temps aujourd'hui de mettre fin à cette impunité généralisée. Depuis de nombreuses années, Amnesty International dénonce l'absence persistante de justice et donc on réclame l'obligation de rendre des comptes pour les violations des droits humains commises lors des conflits meurtriers depuis l'indépendance et plus récemment sous le régime d'Omar el-Béchir qui a favorisé la culture de l'impunité dans le pays. Il est scandaleux que, 20 ans après le début du conflit au Darfour, les autorités soudanaises continuent de manquer à leurs obligations et que les auteurs des crimes de droit international au Soudan échappent à la justice. En octobre 2023, les Nations Unies avaient voté en faveur de la création de ce qu'on appelle une mission internationale indépendante d'établissement des faits pour le Soudan. Cette mission d'enquête avait pour mandat d'enquêter sur les violations des droits humains, de préserver les éléments de preuve en vue de futures poursuites judiciaires et de se concentrer sur les situations humanitaires et relatives aux droits humains les plus préoccupantes. Malheureusement, cette mission d'enquête internationale n'a pu pourvoir les 17 postes, y compris d'enquêteurs, en raison du gel des liquidités au sein du système onusien, dû au retard ou au non-paiement des contributions par certains États. En l'absence d'un nombre suffisant de personnes sur le terrain, la mission aura du mal à mener des enquêtes sérieuses. Alors que les mécanismes des droits humains sont de plus en plus malmenés, la création de la mission internationale d'établissement des faits pour le Soudan a été un véritable triomphe, mais faute de personnel, elle a été minée dès le départ. Et ça, il faut y remédier avant qu'il ne soit trop tard. Et le temps presse, car son mandat s'achève à la fin de l'année 2024. Cette mission internationale est l'une des seules mesures concrètes prises pour répondre au conflit en cours. Il est crucial qu'elle soit dotée des moyens nécessaires pour mener à bien sa mission, afin de préserver les preuves et d'identifier les auteurs présumés pour rendre justice aux victimes et à leurs familles. À l'heure où l'escalade de la violence entre les forces armées soudanaises et les forces de soutien rapide s'étend à tout le Soudan, les civils du Darfour continuent de souffrir de l'incapacité des autorités à assurer leur sécurité, ainsi qu'à rendre justice et à garantir l'obligation de rendre des comptes pour les crimes de guerre et autres violations commises depuis plus de 20 ans au début du conflit dans cette région en 2003. L'impunité est au cœur de la crise des droits humains qui ravage le Soudan et donc il est crucial d'y mettre fin pour l'avenir du pays. La communauté internationale, en particulier les Nations Unies et le Conseil de la paix et de sécurité de l'Union africaine, doit redoubler d'efforts pour que les responsables des crimes qui sont commis au Darfour et qui ont été commis au Darfour soient traduits en justice et pour mettre un terme à cette impunité qui participe aux violences actuelles. Il faut savoir également que l'ancien président et d'autres hauts responsables ont été dans le viseur de la Cour pénale internationale. L'enquête menée par la Cour pénale internationale sur le Darfour a été lancée en juin 2005 et elle a conduit à l'ouverture de 6 affaires devant cette même cour. Les exactions multiples et répétées des Janjaweed dans les années 2000 ont notamment valu à Omar el-Béchir d'être poursuivi en 2009 pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité et génocide par la Cour pénale internationale. Dans sa requête du 14 juillet 2008, le procureur de la Cour voit un rapport hiérarchique très clair entre el-Béchir et Emeti. Ce dernier y affirme en effet sans complexe que lui et ses forces ont été mobilisés par le gouvernement soudanais et ont reçu des armes et des munitions. En dépit des deux mandats d'arrêt lancés par le procureur en mars 2009 et juillet 2010 pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité et crimes de génocide, Omar el-Béchir ne sera jamais arrêté, ni Emeti officiellement poursuivi. Omar el-Béchir a même pu voyager dans des États partis à la Cour pénale internationale, en Ouganda en 2016 par exemple, sans être inquiété, et également en Afrique du Sud. Dans ce dernier pays, face à la mobilisation de la société civile et du milieu judiciaire, Omar el-Béchir a cependant écourté son déplacement. Pour rappel, le mandat d'arrêt contre Omar el-Béchir est l'un des plus anciens lancés par la Cour pénale internationale. Il s'agit du premier chef d'État en exercice à être recherché par la Cour pénale internationale au moment de la délivrance des mandats. Omar el-Béchir est inculpé de 5 chefs d'accusation de crimes contre l'humanité, de 2 chefs de crimes de guerre et de 3 chefs d'accusation de génocide pour des crimes commis entre 2003 et 2008. Malgré la gravité des crimes commis, l'impunité continue malgré tout à régner au Soudan. Une impunité qui a eu des effets désastreux en privant les victimes d'un réel recours à la justice et en amplifiant le sentiment de toute puissance des forces militaires et paramilitaires. Le procès d'Ali Kecheb, qui lui avait été soupçonné d'avoir été le principal dirigeant des milices Janjaweed, lui, ce procès il s'est ouvert en avril 2022 devant la Cour pénale internationale. Cependant, le Soudan n'a pas suffisamment coopéré avec la CPI, donc il doit encore lui transférer l'ancien président Omar el-Béchir et plusieurs autres responsables gouvernementaux. Les autorités soudanaises doivent maintenant accélérer ces transferts. Ces procès sont indispensables pour garantir la justice et l'obligation de rendre des comptes aux victimes des crimes de haine perpétrés au Darfour. Depuis avril 2023 et le début du conflit entre les deux principales forces armées, des centaines de milliers de personnes ont dû quitter leur foyer. Et ça, c'est aussi une très grosse conséquence du conflit, tout ça pour échapper aux violences évidemment. De nombreuses personnes ont cherché refuge dans les pays voisins, comme au Tchad, qui a accueilli plus de 600 000 personnes, ou en République centrafricaine aussi. La Centrafrique, qui peine à se sortir de plusieurs décennies de conflits armés, a vu sa situation sanitaire se dégrader depuis avril 2023, justement. Selon le Bureau des Nations Unies pour les affaires humanitaires, en raison de l'insécurité qui règne le long de la frontière, le trafic entre le Soudan et la République centrafricaine a été fortement perturbé, ce qui a entraîné une forte augmentation du prix des produits de première nécessité. Une inflation qui a eu un impact important sur les conditions de vie des populations, évidemment. Plusieurs dizaines de milliers de Soudanais et de Soudanaises se sont par ailleurs réfugiés dans le nord du pays et sont d'ailleurs venus s'ajouter aux quelques 900 000 personnes vulnérables que compte déjà le nord de la République centrafricaine, en proie à des attaques régulières de groupes armés. Le Tchad aussi accueille désormais plus d'un million de réfugiés soudanais sur son territoire et doit évidemment faire face à des tensions communautaires qui peuvent être ravivées par ce nouvel afflux de réfugiés. Comme souvent, dans les régions en conflit ne bénéficiant pas d'un intérêt médiatique dans la communauté internationale, les financements de l'aide humanitaire peinent à suivre, ce qui accentue encore les risques de mécontentement des populations. D'autres pays comme la Libye, l'Égypte, l'Éthiopie ou le Soudan du Sud sont également concernés par l'impact de la crise soudanaise. Pour conclure, voici les demandes d'Amnesty International concernant le conflit au Darfour. En décembre 2022, les dirigeants civils et les militaires ont signé un accord cadre visant à créer une nouvelle autorité civile de transition pour une durée de 2 ans. L'accord établit comme principe général l'obligation de rendre des comptes pour les crimes relevant du droit international et charge l'autorité de transition de lancer un nouveau processus visant à rendre justice aux victimes et à obliger les auteurs de crimes graves à rendre des comptes. Les autorités soudanaises doivent ratifier au plus vite suite le statut de Rome et faire une déclaration reconnaissant la compétence de la Cour pénale internationale sur leur territoire et sur leurs ressortissants et ressortissantes à compter du 1er juillet 2002, afin qu'il n'y ait pas de refuge possible pour les responsables de crimes de droit international au Soudan. Et enfin, les autorités soudanaises doivent coopérer pleinement avec la Cour pénale internationale et permettre à ses enquêteurs et ses enquêtrices de se rendre librement au Soudan et au Darfour afin d'y recueillir les éléments de preuve nécessaires pour le procès. Si vous voulez en apprendre plus sur ce conflit, je vous invite à lire les rapports d'Amnesty International qui sont disponibles sur notre site. Moi, je vous souhaite un bon week-end et à la semaine prochaine sur Radio FM+.